Chapitre 19. Les ténèbres s'ouvrent. Était-ce la première lueur de la convalescence ou la dernière palpitation de la flamme de vie prête à s'éteindre, cette soudaine flambée de volonté et de projet qui effraya le vieux paysan, qui serra le cœur de Rosanne? L'ai-je rêvé? J'ai rêvé tant de choses, disait Laurent de cette voix toute changée et faible qui ressemblait à une voix d'enfant. Où ai-je vu la maison, l'allée, la grille? On a abattu des sapins pour élargir la vue, et il y a une galerie à l'ouest et des marches blanches devant la porte d'entrée. La chambre du premier, celle de ton père, est meublée comme la belle chambre d'ici, et dans la nôtre, il y a des étoffes à fleurs roses et vertes, dit Rosanne d'une voix douce et lointaine, comme lorsqu'on raconte un conte de fées. Elle avait posé sa main légère sur la grande main amaigrie de son malade, elle le regardait, assise en face de lui, et ses yeux, d'où elle avait chassé les larmes, s'arrêtaient sur ses chers yeux à lui, y pénétraient avec une ardeur extraordinaire d'amour et de vouloir. Élie, revenant prendre sa place, fit à son tour « Il y a beaucoup d'air autour de cette maison, on y respire bien. Les plans ne sont pas prêts, Laurent. » Mais si tu veux bien attendre 15 jours, on te les montrera. » J'attendrai volontiers, dit Laurent avec un sourire, le premier sourire qui eût passé depuis bien des jours sur ses lèvres sèches, sur son visage que contractait l'effort de respirer. À ce mot, Rosanne laissa voir son émotion. Elle n'en pouvait plus, elle se contenait depuis trop longtemps. Laurent tourna les yeux vers son père. « Ne la laissez pas pleurer, » murmura-t-il. « Non, non, elle ne pleurera pas, elle va nous parler de sa maison, des armoires, du jardin. » Fit Élie, persuasif, presque câlin, comme lorsqu'on console des petits-enfants. « Rosanne sera une vraie petite reine dans cette jolie maison, et tout ce qu'elle nous demandera, nous le lui donnerons, n'est-ce pas, mon fils ?» Un trait touchant, que la jeune fille n'avait pas manqué d'observer avec une sorte de gratitude, c'était le soin qu'Élie Mestru apportait maintenant à la netteté de son costume, à l'apparence de toute sa personne, malgré la fatigue et les nuits de veille. Son visage rasé, son front massif, que les cheveux grisonnants coupaient d'une ligne austère, les traits las mais détendus, et les yeux pleins de tristesse, autant qu'un puits profond et plein d'eau, la meurtrissure brune qui les entourait, le contour fin des joues maigres, tout cet ensemble frappé comme une médaille, étonnait Rosanne qui en découvrait la beauté. Laurent devina-t-il cette impression? Les malades ont des intuitions singulières. Ils entendent la pensée quelquefois. « Mon père est beau, n'est-ce pas ? » fit-il avec la simplicité d'un enfant. Une rougeur violente, pénible, se répandit sur le visage du vieux paysan. Élie Mestru se revoyait soudain dans le chemin des champs, sa loque de lapin sur la tête et un gendarme planté devant lui, inventoriant de haut en bas ses guenilles. Il sentait sur sa face l'œil sévère et rond du jeune Pandore, sur son épaule et sur son dos la poussée brutale qui lui faisait franchir un seuil, et sur son orgueil, sur son nom, sur sa lignée, l'écrasante humiliation qui tombait de cette voûte crépie et blanche, le plafond et les murs du croton. « Ça aurait dû suffire, » pensa-t-il presque à haute voix. « Mais non, ça n'a pas suffi. J'ai été plus insensé qu'un bœuf sous le joug, qui ne peut se délivrer du joug, qui meurt avec le joug sur la nuque. Seulement, ce n'est pas moi qui meurs. » Alors, comme poussé par une force intérieure, il se mit à raconter son arrestation, ses 2 ou 3 heures de captivité et les résolutions qu'il avait prises, qu'il avait exécutées ensuite, en partie, et remises aussi, en partie. « Pour m'arracher de cette maison, il fallait, » dit-il. Et il s'arrêta. « Il fallait Rosanne, » dit Laurent à voix basse. La jeune fille les regardait tous deux, en proie à une vive inquiétude. Ah, que c'était bien d'Élie Mestru de choisir ce moment pour raconter une telle histoire. Une histoire grotesque autant qu'exaspérante. Oui, vraiment, tous les Mestru étaient un peu fous à leurs heures. Laurent avait bien besoin d'être enfiévré, lui qui, la veille encore, mêlait les rêves et la réalité. Elle ne disait rien, mais la sueur lui perlait aux tempes. Tout à coup, Laurent se souleva. « Pardonnez-moi, mon père, si je ris. Il faut que je ris. Rire ou pleurer, il n'y a pas de milieu. » Parce qu'il était faible, le côté comique de l'aventure lui apparaissait énorme, débordant, irrésistible. « Ris, mon garçon, ne te gêne pas !» dit son père, un peu étonné cependant. Et ce pauvre Laurent, qui n'avait guère de souffle et pas plus de force qu'un poulet, fut saisi d'un fou rire à y rester. Son thorax et ses bronches se dilataient, son cœur battait très vite, une rougeur montait à ses pommettes, tandis que ses nerfs tendus portaient jusque sous la peau des vibrations douloureuses. Son père et Rosanne le soutinrent, lui mouillèrent le front avec de l'eau glacée, et la jeune fille, très fâchée même contre Laurent, se disait « Vraiment, ces mestrus ne font rien comme personne !» Louise Duplan vint dire que le dîner était servi et qu'elle allait prendre son tour de garde. Laurent se laissa arranger sur ses oreillers. Il avait encore de petits soubresauts de rire, mais il fermait les yeux et il remuait sa tête pour faire un creux dans la plume, comme les gosses déjà à moitié endormis, qui se tassent et qui s'arrangent pour une longue nuit. « Voyez-moi ça, » dit la bonne Louise, « il fait sa coquille. C'est bon signe, allez, c'est signe qu'il se sent plus à l'aise. S'il se mettait à parler, vous m'appelleriez tout de suite, » dit Rosanne, que les alarmes ne quittaient pas si aisément. Tantôt elle, tantôt le père, montèrent furtivement l'escalier, poussèrent la porte entr'ouverte. 20 fois, jusqu'à la nuit close, ils demandèrent d'un geste de la tête et d'un mouvement des lèvres à Louise qui ne bougeait pas. « Il dort toujours ?» Il dormit jusqu'à 5 heures et, quand il se réveilla, ce fut pour réclamer ce fameux bouillon de poulet dont on lui avait fait venir l'eau à la bouche. Il en prit tout un bol et puis il parla de la maison neuve, il voulut que Rosanne en parlât aussi. « Et tout fond fraîche en parlera. On ne parlera plus d'autre chose. Les mestrus d'avant avaient leur place, mais les mestrus d'après seront les rois du pays. Personne ne rira de nous, je vous en réponds. » Vaguement, il lui semblait que tout à l'heure, quelqu'un avait ri d'eux. Il en gardait une sorte de rancune inquiète. Quand le docteur vint dans la soirée, il trouva le pouls bon, moins de fièvre que la veille à la même heure, mais la parole un peu excitée, et les mouvements des mains, des yeux tellement plus rapides et plus vifs qu'il demanda si l'on n'avait pas exagéré la dose d'oxygène. Rosanne ne ferma pas l'œil de toute la nuit, même quand son tour vint d'aller dormir. Elle se disait, dans un état d'irritation nerveuse qu'expliquait son extrême fatigue, « Je deviens folle comme ces mestrus. Je restais là comme une souche. Faire rire de la sorte un malade qui ne tient qu'à un fil, il en mourra. » « Certainement, il en mourra. Ou bien il en perdra l'esprit. Il aura une méningite. » Les pauvres gens n'étaient pas au bout de leurs alarmes, certainement, car si la violence du mal sembla s'être abattue, pareil à un incendie qui ne jette plus de flammes aussi hautes, il n'en couvait pas moins, traîtreusement, dardant ici et là ces langues brûlantes et tortueuses qui couraient avec le sang vers tous les points de l'organisme, cherchant le territoire mal gardé qu'elle pourrait envahir. Le docteur disait « J'ai eu rarement affaire à un mal aussi virulent, à une constitution aussi robuste. Tous les organes sont en parfait état de défense. Mais c'est égal, la lutte est longue. » Madame Dupommier envoyait maintenant de fréquents appels à sa fille par l'intermédiaire de M. Lioumenet. « Ta mère te prie de rentrer, Rosanne. Elle dit que tu en as assez fait. M. Mestru et Louise Duplan peuvent suffire à présent. » C'était vrai, à la rigueur, mais comment abandonner ce malade à l'heure même où, avec grands efforts et bien des pas encore en arrière, il remettait le pied sur le sol ferme de la vie? On pouvait lui faire de petits plaisirs à présent, causer avec lui un quart d'heure, lui lire une page d'un livre favori. C'était « La vie des abeilles » de Maeterlinck. Voyez-vous, Louise Duplan, lisant à haute voix « Les abeilles » de Maeterlinck. Laurent avait aussi une joie, un peu pâle et craintive, comme sont les joies des convalescents, à considérer avec Rosanne et avec son père le premier projet envoyé par l'architecte à qui on n'avait accordé que 2 jours pour reconnaître le terrain et jeter une idée sur le papier. À l'examen, ce plan n'avait guère que des imperfections. Mais quelques artifices d'aquarelle, la sapinière pour fond, une rangée de passereuses gigantesques au pied du perron, la galerie d'où pendait une glycine, en faisaient une demeure de rêve, le jeu d'un bon magicien qui aurait simplement frappé le sol de sa baguette. « Dire que nous habiterons là, nous quatre !» faisait Rosanne émerveillée. Après le château, c'est modeste, faisait Laurent, les yeux remplis aussi de cette vision neuve et brillante. Oh, le château! Que sommes-nous au château? Des gardiennes! Je crois que maman choisira une chambre au rez-de-chaussée. Elle aura des fleurs sur sa fenêtre. C'est une chose que Madame Champieu ne permettait pas. Maintenant que Laurent avait pris l'appétit bizarre, tantôt vorace et tantôt dégoûté, qui suit les maladies infectieuses, c'était à Rosanne de lui fricoter de petits plats, des œufs à toutes sortes de modes, un petit potage velouté, un petit poisson drôlement décoré de demi-rondelles de citron. Louise Duplan cuisait bien les gros mets auxquels Élie Mestru, délivré de l'épouvantable crainte qu'il avait serrée à la gorge pendant 4 semaines, faisait régulièrement honneur. Non, Rosanne ne pouvait déserter et Élie Mestru ne l'y engageait que par conscience. Il était trop heureux de la voir aller et venir, mettant dans la chambre ses petites touches légères qui sont la grâce de la propreté et le sourire de l'hygiène. Les fleurs, roses de Noël et violettes, que Madame Liumenet envoyait 2 fois par semaine, les jolis napperons blancs que Rosanne faisait prendre chez elle, sur l'oreiller, une thé à volant, en toile de fil fraîche et lisse, un abat-jour en papier crêpé, d'un jaune très doux, qui remplaçait sur la lampe le lourd cône de carton vert ébréché. Et quand Laurent faisait l'enfant gâté, ce qui lui arrivait à présent qu'il n'avait plus besoin de vrai courage, Élie saurait-il le gronder comme Rosanne, qui agitait un doigt, puis administrait le remède d'un air maternel? Elle était habillée un peu en garde-malade de profession, d'une robe de toile bleue, une robe d'été courte et simple, facile à laver, et qu'enveloppait le grand tablier blanc, net, sans plis, dont les épaulettes brodées étaient la seule coquetterie. Elle avait maigri presque autant que Laurent, de fatigue, d'insomnie et d'inquiétude, mais elle se sentait de la vaillance à dépenser encore pendant des mois. Ce fut le docteur qui donna un coup de barre inattendu à cette arche où 4 naufragés séparés du monde voguaient tout seuls sans savoir encore où ils aborderaient. « Le moment est venu d'un changement, » fit le docteur assis près de Laurent, qui s'était levé pour la première fois. « Notre convalescent est en bonne voie, mais le progrès ne s'accentue pas assez dans l'air de cette chambre. D'autre part, fond fraîche en janvier, en février, n'est pas l'endroit idéal. Vous avez des brouillards et peu d'horizon. Il faudrait de l'espace, des promenades en voiture, des surprises pour les yeux. » Une belle nature est tonique après des semaines de réclusion. Pourquoi n'iriez-vous pas à Montreux? Vous n'y trouverez pas le printemps, je l'accorde. Mais tout de même, il y fait moins âpre qu'ici, et quand ce grand garçon-là sera un peu restoupé, qu'il pourra se tenir sur ses jambes, vous l'emmènerez à Cannes. Qu'est-ce qui vous en empêche? Laurent montra très peu d'enthousiasme pour ce projet. Il regardait Rosanne d'un air triste, un air d'adieu. « Nous étions si bien » murmura-t-il. Élie, au contraire, s'enflamma immédiatement. Il montra le don d'arrangement précis et rapide qui était en lui et qu'il n'avait jamais appliqué qu'aux travaux de sa grande métairie. Il s'entoura de guides d'hôtel et de chemin de fer. Il fit venir de l'hôpital de la ville une machine à désinfection, une quantité de formol. Laurent fut transporté dans la belle chambre et la sienne fut mise complètement à sac. Mais avant que s'allumât la lampe qui devait brûler 12 heures, avant que les ais fussent calfeutrés d'ouate et de papier, Rosanne embrassa la poupée bleue qu'elle avait regardée souvent, petite sainte du souvenir, sur son autel en l'air. « Tu viendras avec nous dans la maison neuve, » lui chuchota-t-elle à l'oreille. Madame Dupommier envoya à sa fille un change complet de vêtements afin que les robes contaminées passassent aussi 24 heures dans l'enfer asphyxiant de la formaline. Il fallut se séparer. Quand Rosanne se trouva sur la place de l'église, un beau jour à midi, dans la brume fine que le soleil commençait à percer, elle se sentit tout étourdie et lasse à tomber. Elle se retourna pour faire encore un signe aux fenêtres de la belle chambre. Elle distingua deux visages derrière les carreaux qui s'irisaient. Puis elle descendit la rue, seule, à la fois triste et heureuse, et le cœur si élargi qu'elle y aurait logé tout le village. Elle aimait tout le monde. Chacun, à sa manière, avait été bon pour les quatre prisonniers. Mais elle espérait bien ne rencontrer personne. C'est pour cela qu'elle avait choisi l'heure de midi où le paysan mange la soupe. Il lui semblait que toute une vie s'était écoulée depuis le matin où elle avait couru comme une folle du château jusqu'au village. Elle atteignit l'avenue, elle monta lentement la rampe bordée de grands troncs noirs et dépouillés. Tout à coup, un cri jaillit d'une des fenêtres du rez-de-chaussée, ces belles fenêtres cintrées à croisillons blancs, encadrées de pierres blanches. Un battant de croisée s'ouvrait, Myriel y paraissait en peignoir de laine blanche. « C'est toi, Rosanne ? Es-tu désinfectée ? » ?»« Es-tu vé ?» répondit Rosanne qui se mit à rire et tourna rapidement l'angle de la maison, gravit le petit perron, ouvrit la porte de la chère cuisine, si luisante et si gaie. Sa mère lui tournait le dos, occupée près de la table à quelque après. Rosanne lui toucha l'épaule doucement. Madame Dupommier se retourna sans tressaillir, comme font les sourds qui semblent toujours préparés à une surprise. Mais aussitôt, son petit visage blanc se bouleversa, ses yeux cernés se remplirent de larmes. Elle jeta ses bras au cou de sa fille, la pressa, mit sa vieille joue contre la joue fraîche de grand air et de brume. « Ma Rosanne, enfin ! Ah, le temps m'a duré ! Mais tu faisais ton devoir ! Comme te voilà maigrie ! C'est moi qui vais te soigner maintenant ! Ils vont partir, ils vont bâtir, on creuse déjà les fondations près de la sapinière. Je voudrais tout dire à la fois. Viens dans ta chambre, elle est prête depuis longtemps. » Chère petite chambre aux boiseries grises, aux rideaux de mousseline, avec sa jardinière pleine de primevères du Japon et de cyclamens roses, que la mère avait regardé fleurir avec chagrin, les retenant, leur disant « Attendez donc que ma fille soit de retour. » Rosanne ne s'assit pas, elle ouvrit l'armoire, y prit un grand tablier, se l'attacha autour de la taille et dit « Il est temps que je m'occupe de ton dîner, maman. » « J'entends très mal, » fit la mère secouant la tête. « Tu penses bien que personne ne m'a mis des pains chauds sur les oreilles pendant toutes ces semaines. » Après cela, on ne vécut plus que de récits et d'attentes. Des nouvelles des voyageurs arrivaient tous les deux jours. Élie écrivait 4 pages de détails sensés, ordonnés. Laurent ajoutait une ligne que Rosanne découpait avec des ciseaux et ne montrait pas à sa mère. Le voyage s'était bien passé. On avait trouvé une bonne petite pension tranquille. De la chambre de Laurent, on voyait la dent du midi. On projetait une promenade aux avants dans un grand landau qu'on pourrait fermer si l'air devenait trop vif. « Ah, Rosanne, que n'es-tu avec nous ? Mais nous reviendrons ici pour notre voyage de noces, et ce sera l'été alors. » Laurent avait un appétit d'ogre. L'autre jour, en se promenant tout doucement à pied du côté de Clarence, on avait rencontré Madame Champieu du château, qui avait quitté Lausanne dans l'intention de passer 3 ou 4 semaines sur cette rive plus douce. Elle était assez mal portante, elle se plaignait de palpitations. Très amicale et prévenante d'ailleurs, elle semblait contente d'avoir rencontré des connaissances qu'elle traitait même en vieux amis. « Madame Champieu n'oubliera pas, j'espère, dit Madame Dupommier, qu'elle doit être rentrée chez elle le 23 février au soir. Je t'assure bien, Rosanne, que Madame Sébastien a inscrit la date. Elle devrait même rentrer plus tôt, puisqu'elle se sent patraque. Écris-lui un mot, dis-lui qu'il n'y a pas le moindre danger de contagion. » Du reste, puisqu'elle se promène avec Laurent, les jours passaient, unis, paisibles, laborieux. Myriel avait fui la solitude du château dès qu'elle avait pu. Rosanne cousait toute la journée, travaillant à son trousseau. Le soir du 15 février, un télégramme arriva. « Madame Champieu, très souffrante. Danger. Envoyez quelqu'un famille. Signé Mestru. »